Venez tourner avec moi dans Marc 8. On va se baser sur un passage de la parole. C'est un passage qui est rapporté aussi dans d'autres évangiles, mais un peu différent. On va voir ça ensemble. Marc 8, à partir de 22. Il nous dit, c'est la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous voyez déjà, on demande à Jésus de toucher cet aveugle. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Vous voyez, ce petit passage, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Ça a été mis dans la parole, c'est pas pour rien. C'est pas pour juste une histoire qu'un aveugle a été guéri. Oui, il a été guéri. Mais il y a beaucoup plus à prendre de ça. Vous savez, dans Jean 9 aussi, nous avons une histoire d'un aveugle qui a été guéri avec de la salive et puis de la terre. Ce que j'aime bien dans Jean aussi, c'est qu'il élabore la question sur tout ce qui se passe après. Alors que Marc, il dit, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ça avait été dit dans Jean aussi, un petit peu pareil, mais il y a bien d'autres choses qui sont passées. Si vous voulez aller dire Jean aussi, c'est très intéressant. Mais là, on va se baser sur ce passage-là. Vous voyez, cette partie du chapitre qu'on vient de lire relate quatre réactions différentes face à Jésus. On voit les voisins du malade montrent leur surprise et leur scepticisme. Vous savez, quand il y a une guérison, s'il y a déjà des personnes qui ont assisté à une guérison, il y a des sceptiques. Hein? Puis il y a des surprises aussi. C'est normal. On n'a pas l'habitude à ça. On n'est pas préparé à ça. Vous savez, j'ai été guéri une fois, moi aussi. Et je suis allé pour la guérison, ben je savais qu'il y avait la guérison à cette assemblée. J'étais guéri. Je m'y attendais? Non. J'avais mal, j'y étais devant. Puis le lendemain, j'ai plus mal. Et c'était de l'arthrite dans les épaules et dans les poignets. Suzanne peut témoigner. Moi-même, le premier, j'ai été surpris. Vous savez, les pharisiens sont ancrés dans leur incrédulité et leurs préjugés. Et ceux qui ne sont pas au Seigneur, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, si on leur fait voir un truc comme ça, ou qu'on leur apprend un truc comme ça, ils vont venir jaloux, d'abord. Parce que s'ils voient que vous avez été guéri, ils vont être jaloux de ça. Mais ils ne vont pas chercher à savoir pourquoi et où. les parents, nos propres parents, qui croient en Dieu, mais souvent nos frères et sœurs ou nos parents. Quand on vient au Seigneur nous-mêmes, quand on donne sa vie à Jésus, se taisent par la peur d'être ridiculisés. Ça nous arrive, ça. On voit dans cette histoire ici que seul l'aveugle guéri montre une foi ferme et grandissante. Chacune de ces réactions dont il est témoin l'aide à comprendre l'identité de celui qui l'a guéri. Donc, comme on disait, cette histoire concerne un aveugle, ce n'est pas la seule dans la parole. Il y a trois autres occasions où Jésus a guéri des aveugles. Mais cette histoire est unique. Parce que c'est le seul miracle de Jésus qui semble ne pas avoir réussi immédiatement. Il a fallu deux fois qu'il répète de lui mettre la salive sur les yeux, de lui toucher les yeux. Comment ça se fait ? Vous savez, quand Jésus a fait des guérisons, souvent, c'était un miracle privé. C'était pour une personne. Et il ne cherchait pas à faire du spectacle. Il y a des exemples qu'on voit quand il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il a mis tout le monde dehors. Bizarre. Quand il a guéri le sourd muet dans Marc 7, il a guéri et il a défendu de témoigner de sa guérison. Vous savez, à ce temps-là du Nouveau Testament, il y en a beaucoup qui s'appelaient religion. Hein, et souvent, ce n'était que du spectacle. Les pharisiens aimaient bien se montrer quand ils faisaient quelque chose. De notre temps aussi, ça existe encore. J'ai déjà assisté à un culte de guérison et puis il y avait du spectacle. Je ne l'ai pas réalisé de suite, mais après, en réfléchissant, je dis, voyons, on n'est pas là pour du spectacle. Ça a un rapport avec la vue, ce que vous voyez. Justement, Jésus a critiqué les pharisiens sur ce point dans Matthieu 6. Ça nous dit dans la parole que Jésus conduisait l'aveugle hors du village. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Vous voyez, il le voulait à part. Il l'a amené à l'endroit où il voulait l'avoir. Et Jésus doit nous conduire, nous aussi, là où il veut nous voir. Avant de pouvoir nous toucher et effectuer un miracle dans notre vie. Vous savez, si vous attendez une guérison de Jésus, ce ne sera peut-être pas en pleine assemblée. Peut-être que ça sera tout seul dans votre chambre, quand vous ferez appel à lui, dans vos souffrances et votre détresse. Parce qu'il vous a amené là où il veut, seul avec vous, en privé. Cela implique que nous devons passer des épreuves afin d'apprendre des leçons difficiles. C'est là qu'on est devant nos épreuves, quand on est tout seul souvent, quand on repasse dans notre tête ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela est nécessaire, et pourquoi le Seigneur le permet. Même nos épreuves ne sont pas des coïncidences. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il ne perd pas le contrôle, jamais. Il est toujours au contrôle. Mais il est occupé comme à nous manipuler. Vous voyez, un peu un sens un peu différent. Manipuler, mais pas dans le sens de manipuler, vous voyez. Mais ça veut dire nous modeler, comme il fait avec l'argile et le potier fait avec l'argile, afin de nous placer dans une position de réception des miracles et de bénédiction. Voyez, on voit là dans ce passage-là que l'aveugle se laissait conduire. Il ne demandait rien. La preuve. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. L'aveugle n'a rien demandé. C'est ses amis, un truc comme ça, qui l'ont amené là. Il n'exigeait rien, il ne protestait pas, il se laissait faire. Et nous, est-ce que nous laissons faire Jésus? Est-ce que nous nous laissons faire quand il y a quelque chose à faire avec nous? Quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas les choses de Dieu. Avant toute chose, il faut distinguer deux sortes d'aveuglement spirituel. Un qui est normal et un autre qui est mauvais. Je m'explique. La première sorte de cécité est normale. Parce qu'au départ de notre vie spirituelle, nous sommes tous aveugles. N'est-ce pas? Nous sommes tous aveugles. Nous avons tous péché. Nous sortons à peine des ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, beaucoup ont dû se rendre compte, l'éprouver. En quelque sorte, cette lumière nous éblouit et nous empêche de voir immédiatement. Vous savez, quand on est... une lumière nous arrive comme ça, comme des phares de voiture en pleine nuit, là. Ouf, on ne voit pas. C'est pareil. Quand Jésus, rappelez-vous, quand vous avez donné votre vie à Jésus et que Jésus vous a touché. On parle de toucher. Ce n'est pas de venir donner la vie à Jésus devant ici, et puis oui, enfin, réciter la prière et puis être ailleurs. Il y a certains de vous que Jésus vous a touché à ce moment-là. Donc vous avez été ébloui. Parce que les choses de Dieu sont de façon claire et nette. C'est clair et net. Vous avez été touché. Vous avez été changé à ce moment-là. La parole nous dit, il lui mit de la salive sur les yeux. Et même si on voit dans les textes anciens, c'est marqué, il lui cracha dans les yeux. Hein? C'est pour ça que ça a été changé, peut-être parce que ça frappait les gens, peut-être. Mais ça ne fait rien, c'est Jésus. Hein? Donc on va dire, il lui met de la salive sur les yeux. Pourquoi Jésus prononçait une parole aux malades ? Hein ? Il lui parle là, au malade. Il ne fait pas juste qu'agir, faire ça, il lui parle. Parce qu'il lui dit, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Parfois il les toucha, parfois il souffla dessus. Vous savez, dans Jean, comme je disais tout à l'heure, il reçut de la boue dans les yeux et a dû se laver à la fontaine de Silo. Qu'il est vrai qu'à cette époque, la salive était considérée comme médicament pour les malades des yeux. On a plein de choses dans notre corps qui est un médicament. On ne sait pas. Et souvent, on va chercher des médicaments bien chers, alors qu'il suffit peut-être que quelqu'un nous frotte le dos et puis qu'on est guéri. Jésus n'avait besoin d'aucune ressource supplémentaire. Vous voyez ? Sa volonté suffisait. Si tu le veux, Seigneur. C'est ce qu'il faut demander d'abord. Il ne faut pas dire, moi je veux, amène-moi. Je suis malade, regarde, je suis en train de mourir. Si tu le veux, Seigneur. Mais oui. Je sais qu'il va vous dire oui. Ben certain. Hein? C'est celui-là qui va vous dire oui. Jésus n'avait point besoin de moyens visibles, mais les malades en avaient besoin. Vous savez, les Juifs, dans le temps, ils demandaient souvent des signes. Hein, on le voit dans la parole dans l'Ancien Testament souvent. Ils pêchaient un truc comme ça, mais quand ils étaient bien dans l'embarras, là, ils avaient demandé des signes à Dieu. Comme l'arc-en-ciel à Noé, la circoncision aux Israélites, les colonnes de nuages et de feu dans le désert, l'ombre qui régressait pour Égrésias, l'étoile pour les rois d'Orient. Le baptême et le pain et le vin de la Sainte-Cène pour les chrétiens. On s'est demandé. Hein, vous voyez ? On demande des signes, on demande des miracles. Tout ça, ce sont des aides pour notre foi. Parce que quand on voit justement ce que Dieu est capable de faire, ce que Jésus est capable de faire, en guérissant, ça appelle la foi en nous qui croyons. Mais la plus grande aide de la foi, c'est quoi ? Pour moi, c'est ça la plus grande aide à la foi. Si vous lisez la parole, vous allez avoir la foi. C'est là qu'on l'accueille, la foi. Croire ce qui est dit, ce qui est écrit. Il est écrit. Vous savez, il y a un temps d'adaptation quand on est aveugle. Il y a un temps d'apprentissage où nos yeux voient, qui voient, doivent s'habituer. Comme je vous dis, c'est avec un éblouissement. Hein? On a besoin du temps pour retrouver la vue. Et même un aveugle, vous voyez, dans la parole, on le voit, Jésus s'y est pris deux fois. Dans Jean, il lui dit, va te laver à la fontaine de Silo. Si tu ne vas pas là, le miracle ne sera pas fini. Donc c'est pareil pour nous. Quand on donne notre vie au Seigneur, on a encore quelque chose qui s'ouvre devant nous. Vous croyez que vous voyez tout? Non. On ne voit qu'à moitié. C'est ça qui est malheureux. On ne voit qu'à moitié. Et on marche notre vie spirituelle, et puis on ne voit qu'à moitié, puis on voit un petit peu moins qu'à moitié, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins, jusqu'au jour 3. Quand on sera là-haut. Mais nous devons l'accepter. Et nous devons vivre avec. Vous ne pouvez pas faire mieux. Même si vous courez vite, c'est le temps de Dieu. Mais cette étape ne doit pas durer longtemps. C'est seulement un passage du monde des ténèbres à celui de la lumière. Vous savez, c'est comme la vue d'un bébé. On parle d'un bébé, on parle des petits chiens, des petits chats. Un bébé, quand il naît, il ne voit pas tout de suite. Ça lui prend combien de temps? Un mois. Avant qu'il puisse vraiment voir son papa et sa maman, c'est les reconnaître. Et un bébé, quand il naît aussi, il doit recevoir un choc de la lumière. Parce que la lumière, ses yeux voient la lumière. Ses yeux s'ouvrent, mais il voit mal. Et puis durant les mois suivants, sa vue s'accentue. Ça a été pareil pour nous. Dans notre marche chrétienne, on apprend à marcher, on apprend à voir, on écoute. On obéit petit à petit aux choses, pas tout de suite, c'est petit à petit. Et puis, vous voyez aussi, Jésus lui dit s'il voyait quelque chose. Il lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? La première fois qu'il lui met la salive sur les yeux. Il lui dit, non, je ne vois pas trop bien. Je vois, mais comme des arbres qui marchent. Vous voyez? Est-ce que ça nous est arrivé, nous, de voir dans la vie chrétienne quelque chose comme ça? Hein? C'est sûr qu'au début, on est ébloui, on voit plein de choses, mais est-ce que c'est distinct? Mais petit à petit, on se rend compte que on cherche encore. C'est normal. Parce que la parole est là pour nous enseigner. On ne peut pas découvrir ce gros livre là d'un seul coup. Là. Et même les plus doués, là. C'est ça, donc ça prend du temps. Pourquoi est-ce que Jésus lui a-t-il demandé cela, s'il voyait quelque chose? Ne le savait-il pas sans lui demander? Jésus savait qu'il n'allait pas voir de suite. Là. Hein? Allez, si je vais au docteur, il me pose des questions. Le docteur, il va vous dire, ok, en rentrant dans la porte, hop, toi, t'as la grippe. Non. Il va vous poser des questions. Il va toucher votre corps. Il va vous demander si ça fait mal. Il parce que lui, il ne peut pas sentir ce que moi je sens. Donc il va toucher, puis il dit, ah, c'est là que ça me fait mal, c'est là que ça me gêne. Mais Jésus est omniscient. Jésus est différent, lui. Parce que lui, il peut sentir ce que moi je sens. Il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Il sent ce que nous sentons. Il sait comment ça va dans notre vie. Mais il veut que nous confessions la vérité de notre vie et de notre situation. Il le sait. Mais il faut le confesser. Il faut lui dire ce qui ne va pas chez nous. Parce qu'il aime ça, nous entendre. Il aime ça, nous écouter. Et l'aveugle n'est plus que moitié aveugle maintenant. Au fur et à mesure que le temps passe et tout. Mais il est honnête. Il ne crie pas victoire. Parce qu'il dit, rentre dans le, rentre chez toi, dans ta maison. Vous savez, quand on reçoit un miracle ou une guérison, que ce soit n'importe où, comme je dis, ça peut être chez vous, ça peut être dans une assemblée, c'est pas de sauter partout, puis dire oh, je suis guéri. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, vous pouvez témoigner. Il faut faire attention à la folie, là. Vous voyez, on voit ici, puis on voit aussi dans plein de façons que Jésus a guéri quelqu'un. Il a dit, rentre dans ta maison, mais il a dit aussi, ne dis à personne. Hein? Mais ça n'a pas empêché qu'à la suite, ils ont témoigné quand même. Puis il y en a même que ils sautaient de joie. Mais c'était un peu la vérité, c'était un peu pour eux qu'ils faisaient ça. Pas pour faire du spectacle, pour dire voyez ce qui m'est arrivé. Je comprends que quand on reçoit une guérison, on est content. C'est sûr qu'on est content. Donc il ne crie pas victoire quand la victoire n'y est pas encore. Il ne prétend pas être guéri de suite. Avec le temps qu'on va voir si on est guéri complètement. Parce qu'on peut avoir un flash, là. Hein? Ceux qui sont un petit peu, un peu dans la folie, là. Oh, pou, aussitôt, là. Et puis le lendemain, aïe, oh, ça n'a pas marché. Et on voit beaucoup de choses dans les assemblées, dans les églises. J'en ai fait plusieurs églises. Des fois, je me disais, il y a des gens qui sont un peu farfelus. Il ne faut pas être comme ça. Il ne prétend pas être guéri par la foi, tandis qu'il est encore malade. Il ne se séduit pas lui-même. Et il dit ici que Dieu ne bénit jamais des mensonges. Il veut la sincérité et l'honnêteté en tout temps. Dans Éphésiens 4, 25, ça nous dit « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Nous ne nous présentons pas autre que ce que nous sommes en réalité. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de péché. Jean 1, 8, 10, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tout ça veut dire que Il ne faut pas s'auto-proclamer un truc comme ça quand on a reçu quelque chose et tout. Laissez le temps passer. C'est sûr que ça va être le temps de témoigner quand ça sera le temps de témoigner. Il y a un autre aveuglement qui n'est pas normal, dont je voudrais vous parler. La seconde cécité vient de nos attitudes et de nos comportements. Lorsque nous retardons l'action du Saint-Esprit qui veut nous faire sortir de notre aveuglement, c'est comme si on portait des lunettes opaques. Vous arrivez, les gens qui ont des lunettes, elles sont embuées en plein hiver. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des arbres marcher. C'est un peu ça. Et vous voyez aussi, c'est ça, quand on retarde l'action du Saint-Esprit, c'est ce que nous voyons. Nous voyons tout trouble. Alors que nous pouvons nous... Alors que nous pouvons nous passer... J'ai du mal à me relire. Alors que nous pouvons voir correctement, nous pouvons nous en passer de voir parfaitement. Voir correctement, nous voulons voir parfaitement. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer parfaitement. Amen. Et puis il y a la guérison progressive. Et Jésus impose les mains à l'aveugle et puis il lui met de la salive sur les yeux et lui demande encore, vois-tu quelque chose ? La première fois que Jésus le touchait, il a commencé à voir. Mais pas trop bien, comme on a dit tout à l'heure. Pas parfaitement. C'est comme ça aussi avec nous. N'est-ce pas ? Nous ne comprenons pas tout immédiatement non plus. Parce que quand on voit mal, on comprend mal. Tout ça, ça va ensemble. On ne parle pas juste que de la vue, on parle de ce qui se passe là, entre les deux oreilles. Nous sommes comme cet aveugle. L'œuvre du Christ a commencé en nous, mais elle n'est pas encore achevée. 1 Corinthiens 13, 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Vous voyez ce que je vous dis ? On ne voit toujours qu'à moitié jusqu'à ce moment-là. Ça nous vient dit. Nous voyons au moyen d'un miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans un miroir ? C'est souvent pas toujours beau ce qu'on voit dans un miroir. Amen. Il faut que Jésus nous touche beaucoup de fois avant que nous voyions clair et que nous soyons tout à fait rétablis. N'est-ce pas ? Jésus, il n'arrêtera jamais de vous toucher. Jusqu'au temps qu'il arrive au point que lui vous veut vous voir comme ça. Et la vie chrétienne est un processus de croissance. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, et là je l'ai pas, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Chaque fois que nous le rencontrons, il nous touche. Nous contemplons, même dans un miroir, la gloire du Seigneur. Vous voyez, c'est bien de regarder la gloire du Seigneur dans le miroir. Parce que là, on voit les vraies choses. On voit comme Jésus nous voit, comme Dieu nous voit. Et chaque fois que nous le rencontrons, il nous touche. Vous êtes venu aujourd'hui ici pour le rencontrer, pour être touché par lui. Dans l'Église de Jésus, certains peuvent avoir tendance à rejeter la pleine lumière du Seigneur pour rester dans une semi-obscurité. Ils font le compromis de mettre des lunettes opaques. Nous devons vivre dans la lumière et marcher dans la lumière du Seigneur. Jésus revient bientôt. N'est-ce pas? On sait ça, hein? Amen. Il a besoin d'une foule d'hommes et de femmes remplis de la lumière de Dieu, qui vivent et qui marchent dans sa lumière. Ceux qui refusent d'avancer dans la lumière ne voient pas. Et le pire, c'est qu'ils savent qu'ils ne voient pas. N'est-ce pas? Le pire, c'est qu'ils savent qu'ils ne voient pas. Combien de nos amis, de nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui le connaissent, mais qui sont encore dans la cécité, ils savent qu'ils ne voient pas. Ils sont comme l'aveugle dans Marc 8. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je n'en vois comme des arbres qui marchent. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été au Seigneur, qui ont laissé le Seigneur. Ils sont de cette catégorie-là. Ils n'ont jamais vu clair. Voulez-vous voir de cette façon? Votre avis, pourquoi certains yeux demeurent aveugles alors que Jésus les a ouverts à la lumière? Pourquoi? Pourquoi tant de gens ont vu et entendu et qui restent aveugles ou qui retournent aveugles peut-être? C'est que leurs yeux n'ont jamais été ouverts complètement. Vous savez, la réponse est dans Matthieu 6, 24. Si vous la connaissez, c'est l'histoire que nous avons. Ces gens-là ont 2 mètres. Hein? Jésus nous donne ici une clé pour comprendre pourquoi certains demeurent dans une semi-obscurité. C'est parce qu'ils louchent. Il y a un œil qui est sur Jésus, il y a un œil qui est sur le monde. Si vous êtes comme ça, vous êtes en semi-obscurité. Vous ne voyez pas parfaitement Combien de nos frères et sœurs, de notre famille, sont dans cet état? Malheureusement, avoir 2 mètres, ça ne marche pas dans notre vie. Il louche deux digressions opposées. Si vous avez un œil qui vise à droite et l'autre à gauche, vous aurez du mal à marcher droit, n'est-ce pas? L'un qui est tourné sur Dieu et l'autre sur le monde. Je dis ça, c'est, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous. C'est pour la sensibilité de ce que l'on connaît et puis qu'on voudrait ramener au Seigneur. Comme j'aimerais qu'ils entendent un message comme ça. Et puis que leurs yeux s'ouvrent, que Jésus les touche. Parce qu'ils ne sont pas insensibles. Nous aussi, on était là. Et un jour, on a été touchés. Comme je vous dis, c'est pas le coup de... J'en ai connu qui ont donné leur vie au Seigneur et puis on ne les a jamais vus. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils n'ont pas reçu quelque chose, mais ils restent avec 2 mètres. Ça marche. C'est triste, surtout quand c'est des gens de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, on les voit aller. Ils se garrochent à droite et à gauche. Pourquoi? Leurs yeux ne sont pas ouverts. Ils sont comme cet aveugle-là qui est rendu à moitié de la guérison. Ils ont entendu la parole. Ils ont vu leurs parents, frères et sœurs, ou n'importe quoi, marcher dans la lumière. Mais ils sont rendus qu'à moitié. Mais le plus dur, c'est qu'ils se mettent un bandeau sur les yeux pour ne pas voir. C'est ça qui est dur à voir. Parce que quand vous avez amené quelqu'un au Seigneur, et puis que c'est très difficile, et puis qu'il vous envoie balader, comme on dit, c'est ce qu'ils font. Mais un jour, Dieu, Jésus, les touchera. D'une manière ou d'une autre, on prie pour ça. Nous prions de toutes nos forces pour ça, de tout notre cœur pour ça. Et vous croyez que Jésus reste indifférent? Non. Encore dans ce passage-là que le miracle se passait progressivement. Comme ça avec Jean quand l'aveugle devait aller à la fontaine de Silo. C'était progressif aussi. Mais il était complet. Jésus ne fait jamais les choses à moitié. Jamais Jésus n'a fait des choses à moitié, puisqu'il a dit tout est accompli. À Hébreux 12, 2, il nous parle le chef et le consommateur de la foi. L'aveugle fut guéri parce qu'il permettait à ses amis de l'amener à Jésus. Vous voyez? Si quelqu'un vous donne la permission de l'amener à Jésus, il sera touché, il sera guéri. Mais s'il refuse, que vous voulez faire? Attendre le bon moment sûrement. Ou si ce n'est pas vous, c'est un autre. Mais comme je dis, un jour, il y en a beaucoup qui vont être touchés. guérit parce qu'il permettait à Jésus de le conduire. Il guérit parce qu'il laissait Jésus le conduire à l'endroit où il voulait le bénir. Ça, c'est important aussi. Laissez Jésus faire. Votre devoir, c'est amener à Jésus la personne. Après, laissez Jésus faire. Souvent, on a tendance, nous, à bousculer un peu. Hé, réveille-toi, là. C'est pas ça. C'est pas ce que Jésus veut. Amenez-lui le malade. Après, lui va s'en occuper. Il guérit parce qu'il laissait faire Jésus le toucher et lui mettre la salive sur les yeux. Il répondait honnêtement à ce que Jésus lui demandait. Vois-tu quelque chose ? J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Vous voyez ? Il n'a pas dit, oh, c'est Jésus, oh, ça y est, je vois, gloire à Dieu. Non, non, non. Il ne voyait pas encore. Il a bien répondu. Jésus lui demandait, et Jésus prenait son temps pour l'aveugle. Il ne l'abandonnait pas. Quand il disait, j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent, Jésus ne lui a pas dit, je ne peux rien faire avec toi. C'est tout ce que je peux faire. C'est pas ça. Il a persévéré. Il a recommencé. Peut-être ça aurait été une troisième, une quatrième fois, il aurait recommencé encore, comme avec nous. Si tu n'as pas les yeux ouverts encore, Jésus continue de te toucher. Comme j'ai dit, ça prend du temps, c'est progressif. Toute notre vie chrétienne, c'est une marche. Et à chaque fois, on a besoin que Jésus nous touche pour nous faire découvrir de nouvelles choses, nous apprendre de nouvelles choses, nous faire voir d'autres choses. Mais l'aveugle devait obéir et se laisser conduire. Ça aussi, obéir et se laisser conduire. C'est ça qui est difficile. Hein? Ça, c'est le plus difficile, ça. Des fois, on met des freins. C'est un peu dur ce que tu me demandes, Seigneur. Hein? Et puis le dernier truc que je vous dis, il se confiait au Seigneur invisible. Ça, c'est pour nous. Et vous? Vous confiez-vous au Seigneur invisible? On le voit. On le voit. On sait qu'il est là. Combien d'entre nous n'ont pas vu Jésus? On a vu Jésus. La parole nous le confirme souvent. Hein? Mais on n'est pas assez ouvert encore pour finir de le voir. On est encore un peu dans l'obscurité et ça va demander jusqu'au troisième jour, comme je vous ai dit, quand on verra face à face le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis et que Dieu soit ouvert et que Jésus vous touche encore aujourd'hui. Amen.